Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, la saga des Rothschild, l'argent. Le pouvoir et le luxe est une synthèse historique de Tristan Gaston Breton, consacrée à une dynastie bancaire européenne dont le nom est devenu un symbole de fortune, de prestige et de pouvoir, conçu pour un large public. Le livre suit la famille depuis le ghetto de Francfort à la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux transformations contemporaines de ses différentes branches. Il ne se limite pas à la banque, il relie les affaires familiales aux guerres, aux États, à la révolution industrielle, aux pratiques de mécénat, aux collections artistiques et aux modes de vie aristocratiques. Meyer Amschel Rothschild, puis ses descendants établis notamment à Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort, forment le fil directeur de ce récit. L'ouvrage expose aussi les ruptures, persécutions et spoliations sous le nazisme, nationalisation de la banque française en 1981, rivalité autour du nom familial. Il vise ainsi à rendre intelligible une histoire dense, sans réduire la famille à sa seule légende financière. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, de Francfort à un réseau bancaire européen organisé par la famille, le point de départ du livre est la trajectoire de Meyer Amschel Rothschild, négociant juif de Francfort, devenu le fondateur de la dynastie. Cette origine importe, car elle replace la réussite familiale dans les contraintes sociales et juridiques, pesant alors sur les juifs du ghetto, plutôt que dans une vision mythique de la fortune. Gaston Breton montre comment les relations commerciales, la confiance acquise, la confiance acquise auprès de clients influents et la circulation de renseignements constituent des ressources décisives. La famille tire aussi sa force de son organisation. Les fils de Meyer Amschel sont envoyés dans plusieurs capitales européennes, ce qui permet de créer des maisons liées entre elles tout en étant capables de saisir les occasions propres à chaque pays. Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort ne sont donc pas de simples lieux de résidence, ils forment les points d'un réseau transnational. Cette implantation favorise les transferts de capitaux, la connaissance des situations politiques et la continuité des affaires malgré les frontières. Le livre rappelle ainsi que le développement bancaire repose moins sur une puissance abstraite que sur des correspondances, des alliances. Une discipline familiale et une présence durable dans les centres de décision. Cette approche aide à comprendre l'ascension de la dynastie dans le cadre concret du capitalisme européen naissant. Deuxièmement, le financement des États et des industries comme source de puissance, la saga relie le développement des Rothschild aux grands besoins financiers de l'Europe moderne. La famille gagne la confiance de princes, de souverains et de gouvernements dans un contexte marqué par les guerres et par la nécessité de mobiliser rapidement des fonds. Cette fonction de banquier des États explique une part essentielle de son influence, sans signifier que la famille contrôlait à elle seule les événements politiques. Le livre invite plutôt à voir comment le crédit rapproche les institutions publiques, les marchés et les grandes fortunes. Les descendants de Meyer Amschel accompagnent aussi le financement des industries naissantes, notamment des chemins de fer. Ces investissements illustrent le passage d'une finance principalement liée au commerce et aux emprunts souverains vers une économie où les infrastructures transforment durablement. Les territoires. La puissance Rothschild se mesure donc autant à sa capacité de sélectionner des projets et de réunir des capitaux qu'à la richesse accumulée. Cette perspective donne au lecteur des repères pour saisir le rôle des banques privées au XIXe siècle. Elle évite de présenter la finance comme un univers séparé de la société, les réseaux de transport. Les politiques nationales et la croissance industrielle dépendent aussi de mécanismes de financement, de réputation et de coopération internationale. Troisièmement, luxe. Art et philanthropie comme langage de la position sociale. Le luxe occupe une place importante dans le livre, mais il ne sert pas seulement à décrire des fortunes spectaculaires. Les résidences, les fêtes, les collections et les liens avec les élites européennes montrent comment une famille de banquiers construit sa reconnaissance sociale. Des demeures telles que le château de Ferrières expriment une volonté de rivaliser avec les codes de l'aristocratie et de recevoir des figures politiques, artistiques ou mondaines dans des espaces de prestige. Les collections de peintures, de mobilier et d'objets rares participent à la même stratégie de légitimation culturelle. Gaston Breton associe cependant cette dimension mondaine à des engagements philanthropiques, financement d'hôpitaux, de maisons de retraite et d'écoles, ainsi que soutien à des initiatives concernant les communautés juives. Edmond de Rothschild, en particulier, est présenté pour son action en faveur de l'implantation de communautés juives sur des terres achetées en Palestine ottomane. Le livre permet donc de distinguer plusieurs usages de la richesse, investir, transmettre, représenter un statut et financer des causes. Cette pluralité nuance une lecture exclusivement financière de la dynastie. Elle montre aussi que le mécénat peut répondre à des motivations mêlées, associant conviction, responsabilité communautaire, réputation publique et inscription durable dans le paysage social. Quatrièmement, les femmes et les branches familiales au-delà de la succession bancaire. Un intérêt notable de cette synthèse tient à la place accordée aux multiples branches et aux membres dont la vie ne se réduit pas à la direction des banques. La dynastie ne forme pas un bloc homogène, les situations divergent selon les pays, les générations et les aptitudes individuelles. Certaines maisons prospèrent durablement, tandis que d'autres ferment ou perdent leur rôle initial. Cette diversité rend compte des limites de toute explication fondée sur le seul nom Rothschild. Le livre souligne aussi un paradoxe familial, les femmes furent officiellement exclues de l'héritage et des centres formels de pouvoir. Mais elles demeurèrent importantes dans les alliances, la sociabilité, les pratiques culturelles, les collections et les initiatives philanthropiques. Des figures telles que Betty, Charlotte, Myriam ou Noémie témoignent de cette présence, selon des trajectoires distinctes. Leur traitement élargit l'histoire de la famille au-delà des bilans bancaires et des généalogies masculines. Il aide à comprendre que le pouvoir familial peut circuler dans les salons, les mariages, les fondations, les domaines et les réseaux intellectuels, même lorsqu'il ne prend pas la forme de la propriété directe, pour le lecteur. Cette dimension est utile car elle complexifie le récit classique de la dynastie financière et met en évidence la tension entre règles patrimoniales, aspirations personnelles et adaptation aux changements sociaux. En dernier lieu, guerre, spoliation, nationalisation et conflits autour du nom Rothschild, le récit ne présente pas une ascension continue. Il insiste sur les chocs qui fragilisent les branches européennes de la famille et transforment leurs activités. La période nazie constitue une rupture majeure, les Rothschild sont chassés d'Autriche, certains sont emprisonnés et des biens sont spoliés pendant la guerre. Ces épisodes rappellent qu'une grande fortune ne protège pas automatiquement contre la violence antisémite, l'arbitraire étatique ou la destruction des institutions. La quasi-totalité de la famille survit, mais la continuité patrimoniale et professionnelle est profondément affectée. L'ouvrage aborde également la nationalisation de la banque Rothschild en France en 1981, autre exemple de l'influence des décisions publiques sur une maison privée ancienne. Enfin, les différends liés à l'usage du nom familial montrent que la marque Rothschild demeure elle-même un actif disputé. Ces crises éclairent un thème central du livre, la longévité ne signifie pas immobilité. Une dynastie survit en réorganisant ses activités, en négociant avec des cadres politiques changeants et en gérant des désaccords internes. Cette partie apporte un contrepoint nécessaire aux images de châteaux et de richesses. Elle permet de lire la saga comme une histoire de résilience institutionnelle, mais aussi comme le produit de vulnérabilités historiques très réelles. En conclusion, la saga des Rothschild conviendra au lecteur qui cherche une porte d'entrée accessible dans l'histoire des grandes dynasties financières, du capitalisme européen et des relations entre banques, États et industries. Elle intéressera aussi les personnes attirées par les dimensions sociales de la richesse ascension depuis le ghetto de Francfort, adoption des codes aristocratiques, mécénat, collection artistique et philanthropie. Son bénéfice principal est de rassembler, dans un récit suivi, les principales branches de la famille et les grandes périodes qui ont déterminé leur destinée. Le lecteur peut ainsi relier les figures familiales aux transformations de l'Europe, plutôt que de recevoir une simple succession de noms et de fortunes. Le traitement des femmes, des passions individuelles et des divisions internes élargit utilement le sujet au-delà de la banque. Par rapport à une biographie strictement économique ou à un ouvrage centré sur les légendes entourant les Rothschild, ce livre se distingue par son ambition panoramique et par une narration riche en anecdotes. Il rend les mécanismes de la finance historique relativement abordables pour des non-spécialistes, tout en conservant la complexité géographique et généalogique du sujet. Certains lecteurs pourront toutefois juger le ton globalement favorable à la famille et la profusion de personnages difficiles à retenir. Il se lit donc au mieux comme une synthèse vivante à compléter, si besoin, par des travaux plus critiques ou plus spécialisés sur la banque, les spoliations et les contextes politiques abordés. Si vous souhaitez soutenir Tristan Gaston Breton, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.